Alors l'émission d'aujourd'hui sera en compagnie de Bernard, notre invité, libertaire avec des guillemets depuis 1968 et cofondateur du syndicat CNT Solidarité Ouvrière. Ce sera l'occasion de discuter du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarchisme et des courants libertaires au sens large auxquels il s'est intéressé, dans lesquels il a évolué depuis 1968. Alors en guise d'introduction polémique, je vais vous lire quelques extraits de son texte du confusionnisme politique et de l'islamo-gauchisme en particulier, qui est paru sur le site autrefutur.net. Les massacres de janvier et de novembre 2015 ont été l'occasion, une fois encore, de voir se déployer la confuse rhétorique des islamo-gauchistes de tout poil. Avec des nuances diverses, le discours demeure à peu près formaté de la même façon. Après une condamnation de principe des massacres, on en arrive au problème essentiel, l'islamophobie. Peu importe que soient ainsi assignés à résidence religieuse des milliers, des millions d'êtres humains venus des quatre coins du monde, les frères musulmans et leurs cousins salafistes sont ravis. Ils ont réussi à faire rentrer ce vocable imbécile dans la vulgate de certains gauchistes à court de réflexion. On est ainsi passé de la lutte nécessaire contre le racisme à la défense d'une religion. 150 ans de combats sont ainsi jetés aux oubliettes. La liste est longue des confusionnistes théocompatibles qui pavent la voie des islamistes et de leurs projets politiques totalitaires. Les viols collectifs qui se sont produits récemment en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans les pays scandinaves ont été l'occasion pour nos islamo-gauchistes d'entonner à nouveau leur lamento sur l'ère du pas d'amalgame. C'est ce que dénonce brillamment la sociologue algérienne Mariem Elie Louka dans l'article de l'européocentrisme comme cache-sexe. Alors pour notre part, c'est vrai qu'islamophobie est un concept qui assigne effectivement à résidence comme musulman entre guillemets ceux assignés comme tels dans les discours racistes. Et que, à mon avis, on devrait qualifier de discours racistes plutôt que de discours islamophobes. Et le contraire, en fait, de l'islamophobie serait l'islamophilie. Et on peut difficilement croire que dans la dite gauche radicale, il y a des islamophiles. Alors qu'il faudrait plutôt pour nous adopter une position antiraciste. Et donc du coup, la position de sortir du capitalisme serait celle d'une critique radicale du racisme, notamment vis-à-vis non pas des musulmans, mais des musulmanisés, puisqu'ils ne s'identifient pas toujours à l'islam, et des idéologies religieuses, notamment les idéologies islamistes, et, puisque c'est notamment de ça dont il s'agit dans l'article, du masculinisme et de ses violences, sur lesquelles il ne faut pas faire l'impasse. Et donc il faut refuser, à notre avis, de choisir entre une critique radicale du racisme d'une part et une critique radicale des idéologies religieuses et du masculinisme d'autre part. Alors, qu'est-ce que tu penses de la manière dont on a pu lire ton texte
Je suis évidemment d'accord, puisque c'est... En gros, c'est ce que je dis, même si, bon, je ne l'ai peut-être pas exactement dit dans ce court texte d'introduction au texte de la sociologue Mariem Elie Louka, mais oui, bien sûr, en tant que syndicaliste révolutionnaire, c'est évidemment de ce côté-là que je me situe, c'est-à-dire critique sans concession, d'une part, bien sûr, de l'oppression et de l'exploitation capitaliste, mais également de toutes les formes d'aliénation, domination qui peuvent exister sur cette délicieuse planète. La religion en fait partie, et au premier chef, hein, comme la domination masculine. Et c'est absolument ahurissant, mais vraiment ahurissant, de voir comment ce qu'on appelle les islamo-gauchistes entonnent sans aucune critique, ou alors de pure forme, comme ça, par révérence, ils entonnent un discours que tu as qualifié d'islamophile, mais c'est tout à fait ça. Enfin, il suffit de lire la prose de M. Tévanian, ce comique de service qui n'hésite pas à se prétendre libertaire. Mais oui, M. Tévanian se dit libertaire, mais comme on ferait probablement. Où on a tout simplement de la de la revente en gros et en détail de l'idéologie religieuse. Hein. Alors au prétexte lénifiant que l'islam serait la religion des opprimés. Enfin, c'est le foutage de gueule dans les grandes largeurs. Le mouvement ouvrier en Europe s'est heurté dès le début à la religion des opprimés, parce que ne nous racontons pas d'histoire. Une grande partie du prolétariat 19e et 20e siècle était abruti par la religion catholique ou protestante. Hein, on avait un prolétariat qui était en grande partie, qui adhérait en grande partie aux idéologies religieuses. Hein, donc c'était aussi la religion des opprimés. Hein, ça n'a pas empêché les révolutionnaires de l'époque d'affronter mais directement et souvent violemment la religion, les religions et leurs appareils idéologico-politiques. On a affaire exactement, enfin pas exactement parce que l'époque change, mais on a une configuration assez semblable aujourd'hui où on a des bonnes âmes qui viennent nous expliquer qu'il ne faut surtout pas toucher à la religion musulmane, il n'est pas permis de critiquer, il ne faut pas se moquer. Hein, dessiné assez drôlement Charb dans Charlie Hebdo à une époque, il ne faut pas se moquer. Hein, faut pas se moquer du prophète. Bah, si, désolé, on a le droit de se moquer du prophète, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des sept nains, enfin, si on a envie.
Après, aussi, le fait que le discours de l'extrême droite soit passé d'un racisme anti-arabe quasiment sans transition à un discours de simple critique au nom de la laïcité, de la République et des valeurs françaises de l'islam, est-ce que du coup effectivement le fait d'avaliser, parce que effectivement le discours de critique de l'islamophobie s'est quand même construit en réaction à ce changement paradigmatique de l'extrême droite, et du coup effectivement peut-être pour aller dans ton sens, le fait d'avaliser ce changement, de prendre l'extrême droite au mot et de croire que maintenant il s'agit de la critique d'une religion et non plus, d'une forme de racisme continué par d'autres moyens, effectivement, dans ce sens-là, il vaudrait mieux opposer la critique du racisme des musulmanisés, des assignés à résidence de l'islam, plutôt que de tomber dans le piège finalement de l'extrême droite et de tomber dans une espèce d'islamophilie qui peut conduire au moins une partie de l'extrême gauche à des positions qui auraient paru effectivement complètement aberrantes il y a encore 40 ans et même plus récemment.
Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce changement paradigmatique dont tu parles, ça prête quand même à sourire. Enfin, voir la mère Le Pen brandir la laïcité, franchement, c'est même pas sourire, c'est éclater de rire. Enfin, quand on sait ce que rassemble le Front National, qui est un front, nous l'oublions pas, c'est-à-dire que ça rassemble des éléments assez hétéroclites, et il y a une bonne partie de ses cadres, de sa clientèle, des intégristes catholiques. Enfin, et c'est des gens qui ont de tout temps été opposés à la laïcité. La laïcité, elle a bon dos dans ce cas-là. C'est une grossière manipulation, une récupération d'un idéal qui n'a absolument rien à voir avec l'extrême droite. En fait, de toute façon, le combat laïque au XIXe siècle et au XXe a été porté par la bourgeoisie. Mais oui, c'est ce que reprochent beaucoup les islamophiles. Hein. On reparlera des imbéciles du pire, là, les indigènes de la République, le pire, le bien nommé. Eh bien, ces gens-là n'arrêtent pas de rappeler que c'est la bourgeoisie qui était porteuse de la laïcité. Oui, c'est pas faux, mais dans ce combat, la bourgeoisie a bénéficié de l'aide du mouvement ouvrier, hein, et notamment des anarchistes, hein, qui en rajoutaient dans... pas toujours avec bon goût d'ailleurs, mais enfin, qui en rajoutait dans la critique du cléricalisme, de la religion, de Dieu, etc. Donc, la laïcité comme arme unique de la bourgeoisie, c'est un peu court, hein, comme lecture d'un phénomène historique.
Et pour finir là-dessus, il y a eu récemment un article... paru sur le site du séminaire Étape de Philippe Corcuff qui avait signé le manifeste d'appel des indigènes de la République en 2005 et qui maintenant a fait une critique que effectivement toi tu jugeras sans doute insuffisante, mais qui pointait un certain nombre de problèmes au-delà du fait que ça reste un milieu assez coupé des quartiers populaires. Mais surtout, moi ce que j'avais déduit, mais je suis allé peut-être un petit peu plus loin dans la critique que l'article lui-même, c'était qu'il y avait peut-être dans le discours des indigènes de la République, et c'est ce qui pointait, un peu une espèce de colonialisme renversé, dans le sens où on reprenait le discours très essentialisant, très unifiant des indigènes, trois couleurs, un empire. Il mettait notamment la photo là-dedans dans l'article. Et aussi une lecture assez binaire qu'on retrouve aussi dans le nationalisme du FLN, qui a beaucoup utilisé la rhétorique anticolonialiste pour faire passer sa dictature militaire de modernisation, de rattrapage, de type léniniste, et qui dans sa rhétorique, assimilait la domination à des, on va dire, ce qu'on pourrait appeler des blancs concrets, alors que, effectivement, si historiquement, le sujet dominant dans le capitalisme, c'est le sujet blanc qui n'est pas assujetti au code de l'indigénat, au travail forcé, ça ne veut pas dire que parce que historiquement ça a été ainsi, que des non-blancs concrets peuvent prendre la place des sujets dominateurs. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Algérie, où effectivement la caste de généraux qui a pris le pouvoir entre 62 et 65, effectivement, n'est plus blanche. Effectivement, on a un pouvoir nationaliste complètement anticolonialiste. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a eu une quelconque émancipation, si ce n'est effectivement du colonialisme blanc, mais pas de ce qu'on pourrait appeler une espèce de colonialisme intérieur de la part de la dictature militaire algérienne.
Bien sûr, encore que le terme de colonialisme intérieur, moi, ne me satisfait pas. Mais dans la blague populaire algérienne, ça se dit de manière très lapidaire. Ça se dit « Pierre est parti, Mohamed a pris sa place ». Voilà. C'est-à-dire que les Algériens, ils ont bien compris qu'ils ont troqué une domination. Ils ont eu raison, hein, cela dit, de foutre les Français à la porte.
Ah oui, bien sûr.
C'était une nécessité historique. Cela dit, on sait comment se sont terminées la plupart de ces, luttes de libération nationale, parce qu'elles sont prises dans un contexte beaucoup plus vaste. C'est qu'une bourgeoisie autochtone a tout simplement pris la place. Voilà, subordonnée très souvent à des bourgeoisies, des impérialismes plus costauds, mais c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Pour en revenir aux petites crapules du Parti des indigènes de la République, bon, Corcuff, il a dû signer ce texte en 2005, comme beaucoup de gens l'ont signé en pensant que c'était une pétition. Hein. Alors, déjà, en 2005, ces indigènes de la République, ils découvraient l'eau chaude. Hein. Ils découvraient que les Noirs et les Arabes, comme ils disent, étaient victimes de discrimination. Bon, on ne les avait pas attendus pour ça. Hein. Savoir que dans le logement, le travail, etc., oui, il y avait du racisme. Bon, d'accord. Le souci, c'est qu'à partir de ce constat, il y a effectivement, comme tu l'as dit, une essentialisation. Après, des populations de l'immigration et issues de l'immigration qui en font des sujets de race. Et ce terme de race, c'est un terme absolument abominable qui est repris sans sourciller par ces gens-là. Et c'est un discours qu'on a pu qualifier de racialiste. Je crois que c'est même encore trop gentil. C'est un discours raciste. Voilà. Il s'agit quand même de souligner et de rappeler que la race, ça n'existe pas. Et que donc, quand on s'en sert pour élaborer une vision du monde, bah, c'est tout simplement une vision raciste. Et ce groupe, le Parti des indigènes de la République, est ni plus ni moins qu'un groupe raciste. Et je pense qu'on aurait tort de minimiser le danger qu'il représente. Hein, on dit souvent, oh ouais, c'est un petit groupe d'intello, sans influence dans les quartiers. Ouais. Les nazis aussi, hein, ont commencé petit. Et ces gens-là commencent petit. Mais comme sont des démagogues et qu'ils surfent sur les pseudo-évidences, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, hein, oui, alors, ça paraît, c'est pas une évidence, hein, n'importe quel beau français vous dira, mais bien sûr que les races, ça existe, puisque les Noirs, hein, c'est pas, on les voit de loin. Alors voilà. Donc, les races, ça existe. Puis un Arabe, quand on le voit, voit bien qu'il cause pas le français comme nous. Donc, les races, ça existe. Eh bien, ce genre de présupposé immédiatiste, c'est à partir de ça, que se bâtit la vision du monde, essentialiste, du pire. Et c'est très dangereux. Parce que ce sont des gens qui sont en train, ni plus ni moins, que de fomenter la guerre civile. Voilà. Et ils y trouvent leur compte, comme racket, ce que dénonçait il y a une petite quarantaine d'années la revue Invariance. Hein, Jacques Camat parlait de la théorie du racket, hein, la bande racket. Eh ben, le Parti des indigènes de la République en est un excellent exemple. Hein, c'est leur racket sur l'immigration et les enfants de l'immigration.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut critiquer le fait que dans l'optique d'une critique sans concession de ce qu'on pourrait appeler avec Roswitha Scholz la dissociation valeur raciale coloniale, c'est-à-dire le fait que le capitalisme pose quand même un sujet dominant, historiquement constitué comme blanc, qui aurait les qualités de force, d'intelligence, et refoule sur un sujet identifié comme non blanc, alors que ce soit le vol, la paresse, la polygamie, des choses comme ça. Et c'est vrai que effectivement, ça peut paraître problématique. Pour critiquer cette constitution un peu historiquement raciste du capitalisme, de reprendre des catégories essentialisantes plutôt que de enfin, en tout cas c'est un peu la position de sortir du capitalisme, plutôt que de s'attaquer au capitalisme comme totalité, et notamment comme totalité qui fabrique des sujets dominants qui sont historiquement constitués comme blancs, et des sujets dominés qui sont historiquement constitués comme non blancs. Mais le problème peut-être avec le Parti des indigènes de la République, c'est qu'il confond ces constitutions historiques de sujets avec les gens concrètement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un blanc, un non blanc? Est-ce que Philippe Corcuff, est-ce que moi, est-ce que vous êtes blanc, est-ce que vous êtes non blanc? Effectivement, on peut critiquer effectivement cette racialisation de la politique et de la lutte anticapitaliste.
Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, parce que c'est très dangereux, une histoire comme ça. Hein, commencer à agiter ce genre de fantasme raciste, ça va très loin. On voit comment ça a tourné en Allemagne, quand on a réussi à persuader des millions de prolétaires allemands que leur malheur, c'était les juifs. Voilà. Hein, c'est pas le capitalisme qui les a plongés dans la misère, c'est pas le capitalisme qui a déclenché la grande boucherie de 14-18. Non, tout ça, c'est la faute des juifs. En tiennent que reprennent d'ailleurs ces gens-là. Hein, quand on lit les textes absolument ahurissants du pire de son égérie, la Boutelja et de ses penseurs à la gomme, Chiari et tout ça, on est frappé par leur antisémitisme. Hein, c'est clair. Et c'est plus qu'un glissement. C'est normal. Ils glissent là-dedans parce que leurs présupposés sont des présupposés raciste. J'en profite pour signaler un texte pour ceux que ça intéresse, ceux de nos auditeurs que ça intéresse. On le trouve sur Internet assez facilement. Ça s'appelle « Racialisateur Go Home », hein, sous-titré « Quand ça glisse », je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est « Racialisateur Go Home ». Et ça démonte assez brillamment je dois dire, tout le discours islamo-gauchiste, et notamment le discours du pire, et y compris de ses compagnons de route qui sont pourtant prisés de certains secteurs de l'université, comme M. Saïd Bouamama. Alors, Bouamama, il est quand même moins con que les gens du pire. Il évite de tomber dans les horreurs antisémites, homophobes, sexistes, qui sont le pain quotidien du pire. Mais il fonde ses démonstrations sur une base identique, hein, sur une base racialiste, disons, pour parler gentiment.
Et du coup, pour ceux que ça intéresse, on pourra lire donc Racialisateur Go, mais aussi le texte de Philippe Corcuve qui est moins virulent, mais qui offre quand même pas mal d'éléments matériel, extrait de discours et tout ça pour un petit peu au moins commencer à réfléchir de manière critique, voire radicale, au sujet du pire.